Marie-Christine Lanier, Art et Affinité. Another good cowpuncher has gone to meet his fate. I hope he'll find a resting place within the Golden Gate. Voilà encore un brave cow-boy parti vers sa destinée. J'espère qu'il aura bon accueil aux portes du paradis. Voilà une nouvelle place vacante au Ranch XIT. Pour sûr, ce sera dur de trouver un gars si apprécié. Kid White fut le premier. Il était fort et brave. Charlie Rutledge est le troisième à partir dans la tombe suite à une chute de cheval en courant le bétail. Au grand rassemblement, les hommes bravent la mort. Ce matin-là, il est parti dans les collines, tout joyeux et sans le moindre tracas. Pourtant, à l'heure du retour, on ne le voit pas rentrer. Son temps sur terre était passé. Alors qu'il rassemble les bêtes, un XIT fait demi-tour vers le troupeau. Charlie le repousse avec force et éperonne son cheval. Mais un autre se retourne. Son cheval le voit, se renverse et tombe sur lui. Pauvre Charlie. Là-bas au Texas, ses proches ne le reverront plus. Mais j'espère bien qu'il rejoindra ses parents dans l'éternité. Dans l'éternité. J'espère, Charlie, que tu les retrouveras et qu'ils te mèneront vers le trône lumineux de la grâce. I hope he'll meet his parents. We'll meet them face to face. And that they'll grasp him by the right hand at the shining throne of grace. Charlie Rutledge. Chanson collectée par le musicologue John Lomax en 1910, mise en musique par Charles Ives en 1924. Une mise en musique pour voix et orchestre d'une ballade de cow-boy recueillie dans l'anthologie de John Lomax. La ballade débute comme un simple éloge funèbre du cow-boy Charlie, une tournure folk traditionnelle. Puis, la voix va s'intensifier pour raconter sa mort tragique, écrasée par son cheval. Et troisième temps, la mélodie initiale, brutalement interrompue, reprend imperturbablement.
Another good cowpuncher has gone to meet his fate. I hope he'll find a resting place within the Golden Gate, the Golden Gate. Another place is vacant on the ranch of the XIT. 'Twill be hard to find another that's liked as well as he. The first that died was Kid White, a man both tough and brave. While Charlie Rutledge makes the third to be sent to his grave. Caused by a cow horse falling while running after stock, 'twas on the spring roundup, a place where deaf men mark. He went forward one morning on a circle through the hills. He was gay, full of glee, and free from earthly ills. But when it came to finish up the work on which he went, nothing came back from him, his time on earth was spent. 'Twas as he rode the roundup, a XIT turned back to the earth. Poor Charlie shoved in again, his cutting horse he spurred. Another turn, and at that moment, his horse the creature spied and turned and fell with him.
Beneath poor Charlie.
relations in Texas his face never more we'll see. But I hope he'll meet his love once beyond in eternity. In eternity, I hope to meet his parents. We'll meet them face to face, and that they'll grasp him by the right hand at the shining throne, the shining throne, the shining throne of grace.
Interprété par le baryton Thomas Hampson et le San Francisco Symphony Orchestra, dirigé par Michael Tilson Thomas. Bonjour. Le paradis des cowboys, c'est l'une des nombreuses variations du compositeur américain Charles Ives sur la vie après la mort. Cependant, la déclamation très rythmique, la dramatisation exagérée, l'humour aussi de cette pièce font que le style de cette mélodie excède largement les habituelles contraintes d'une simple ballade de cow-boy. Alors le cow-boy emblématique du Far West ou du Texas, on le retrouve parmi les figurines en mouvement du cirque Calder, créé à Paris par le sculpteur américain Alexander Calder. Le cow-boy de Calder que vous avez sur l'écran de rc.fr soulève son chapeau. Il peut attraper une bête au lasso. Il est fait de fils de fer, de vieux chiffons, de bouchons, des ficelles et des ressorts permettent d'actionner le numéro sur une piste de cirque. Et tel un marionnettiste, à la fin des années 1920 à Paris, Calder actionna les nombreuses figurines qui composent son cirque. Il y avait de la musique et c'était magique. Un cirque miniature, habituellement conservé au Whitney Museum de New York, est présent à Paris en ce moment, à la Fondation Louis Vuitton, dans le cadre de l'exposition Calder, rêvé en équilibre, jusqu'au 16 août 2026. Charles Ives, c'est le père de la musique américaine du XXe siècle, un visionnaire et un solitaire dans un pays qui vibre essentiellement aux sonorités des marches, les hymnes et ce qu'on appelle les songs. De Charles Ives, un autre compositeur américain, John Adams, écrit qu'il a, je le cite, toujours mêlé le sublime avec le vulgaire et le sentimental, et qu'il l'a fait avec une insouciance qui ne pouvait être que celle d'un Américain. Aujourd'hui, second volet d'un cycle de 3 émissions sur Calder et donc Charles Ives, et nous entendrons dans cette émission The Unanswered Question, la célébrissime question laissée sans réponse de Charles Ives. Alors, je remercie Jean-Édouard, Stéphane et Aline qui réalise cette émission. Le premier. Mobile suspendu, le mobile historique de Calder, fut présenté en 1933 à la galerie Pierre Colle à Paris. Son titre, Small Sphere and Heavy Sphere, petite sphère et sphère lourde. À la Fondation Louis Vuitton, j'avoue être passé à côté une première fois, en me demandant ce que ça pouvait bien faire ici, dans un espace tout blanc, privilégié, au fond de la première galerie. Alors ça, c'est une œuvre très en avance sur son temps, très visionnaire, presque conceptuelle. Ce qui me console un peu, c'est que l'œuvre n'a pas été présentée lors de la rétrospective Calder au MoMA de New York en 1943. C'était trop expérimental. On se console comme on peut, n'est-ce pas? On a presque ici une version abstraite du cirque. Vous n'en aurez pas d'image sur l'écran de rc.fr, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que Calder, dans cette œuvre, n'a presque rien créé de ses mains. Il est alors influencé par Marcel Duchamp, à une époque où on interroge la définition même d'une œuvre d'art avec le fameux ready-made, c'est-à-dire prendre des objets qui existent déjà et les réutiliser pour créer. Alors je fais court. Calder va faire sienne cette idée en récupérant des objets. Il y a des bouteilles vides, trois ou quatre, une caisse en bois, une petite caisse, une boîte de conserve aussi, surtout gardez votre calme, une boîte de conserve. Et les deux sphères qui seront au centre de l'attention des spectateurs sont aussi des objets de récupération. Il y a une petite bille en bois, la small sphere blanche, on ne la voit pas tout de suite, et la heavy sphere rouge qui est en fonte pesant environ 2 kilos. Alors, ces deux sphères sont suspendues par des fils à une tige de fer horizontale, elle-même suspendue comme un trapèze au plafond de la fondation. Calder a créé un seul objet qui s'avère être un petit gong en laiton posé par terre également, donc à côté de ce qu'il appelle des impedimenta, du latin impedire, qui veut dire entraver. Entraver le mouvement. C'est une œuvre particulièrement avant-gardiste qui est faite pour être activée. Elle n'a pas d'existence en soi quand on la regarde à l'état immobile. C'est pour cela que je ne vous montre pas d'image. Elle vit quand elle est en mouvement. Il y a un protocole très précis, toutes les 2 heures. À la Fondation Louis Vuitton, exactement à 15h, puis 17h, surgit un régisseur du musée tenant une sorte de queue de billard perpendiculaire à l'axe vertical du trapèze, quelqu'un qui vient délicatement frapper la sphère rouge, lui donner un léger mouvement comme au billard. Et alors, la petite bille blanche qu'on n'avait pas forcément remarquée va commencer à tourner follement autour des objets. Vous voyez, elle devient complètement folle-dingue. Elle est à 2 cm du sol. Et les objets, les impedimenta, sont là pour créer de l'attention, de l'attente. Et tout ce qu'on attend, évidemment, c'est que cette petite bille folle-dingue rentre dans une des bouteilles et si possible dans le gong. Donc le pari réussi de Calder, c'est que les visiteurs vont être suspendus à quelque chose d'invisible, d'immatériel, à savoir une trajectoire. Et en plus, cette trajectoire est imprévisible. Donc c'est une œuvre qui n'existe pas sans mouvement, mais qui n'existe pas non plus sans visiteur. Je veux dire que le visiteur fait 80% de l'œuvre. Il y a une interaction qui est demandée au spectateur. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'on va chercher à anticiper le mouvement de cette bille et on ne veut jamais y arriver. Alors parfois, voyez-vous, les gens redescendent des étages supérieurs pour être prêts à 17 heures. Parfois, il ne se passe rien. Et il y a une grande déception, presque de la frustration chez les visiteurs. Cela se ressent vraiment. Mais parfois, ça marche. Et c'est un moment complètement magique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? Ça veut dire que la petite bille blanche vient frapper le gong. Mais il n'y a rien de plus. Et alors, on sourit comme un gamin. Enfin, son mouvement dure environ 10 minutes avant de mourir. Donc, c'est une œuvre qui inclut la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps. C'est une œuvre qui annonçait les mobiles classiques de Calder qui ne devaient trouver leur forme initiale qu'à partir du début des années 40. Nous sommes ici en 1933. Enfin, dernier point, quand la petite boule blanche vient percuter une bouteille, ou mieux encore le gong, cela crée un son, une forme de musicalité complètement aléatoire. Alors suivez-moi bien. Le recours au hasard, plus la dimension acoustique, vous m'accorderez qu'il est difficile de ne pas penser à John Cage. Et ce sera pour dans 15 jours. Jusqu'à présent, on est encore dans des formes assez régulières, la sphère, les verticales, des fils, les horizontales. Et rapidement, Calder va aller vers des formes plus fluides, plus organiques. Vers 1933, ces sculptures entrent en résonance avec une tendance, un courant artistique qui aura beaucoup d'influence sur lui et qu'on appelle le biomorphisme. Il y a de la peinture, de la sculpture biomorphique à cette époque. Ce n'est pas un mouvement en tant que tel. Et la Fondation Louis Vuitton présente plusieurs œuvres biomorphiques d'artistes qui sont soit des surréalistes ou bien qui exposent avec le groupe rival Abstraction Création. Alors, le biomorphisme, ce courant, c'est plutôt une influence commune à ces artistes des forces de la nature. Il ne s'agit pas de copier les formes de la nature, mais de s'inspirer de l'énergie, des forces internes de la nature. C'est l'idée de croissance, de puissance de vie, et on va retrouver cela dans des formes molles, organiques, comme si elles appartenaient à l'origine du monde. Le peintre Miro, le sculpteur Jean Harpe sont des grandes figures du biomorphisme et plusieurs de leurs œuvres sont présentes pour faire écho à leur contemporain Calder. Alors, je vous montre un travail en bois, requin et baleine, grâce à Jean-Édouard sur l'écran de rc.fr. C'est un simple assemblage de deux éléments de bois exotiques peints dont l'équilibre semble très fragile. Alors, le titre de Calder, requin et baleine, si on regarde le cartel, suggère une association avec le monde réel. D'un côté, j'aurais la masse d'une baleine qui semble surgir de l'océan, de l'autre, l'arc de cercle d'un requin qui semble sauter très rapidement par-dessus la baleine avec un seul point de jonction pour unir les deux cétacés. En réalité, il s'agit seulement de deux signes. Ce sont des formes primitives, archaïques. Le bois est à nu, semble vierge de toute intervention humaine. Et avant de connaître le titre, je pensais que le requin, au fond, c'était le fléau d'une balance qui penchait trop d'un côté. Donc, double conclusion. C'est une œuvre d'une grande force magnétique, à la fois surréaliste, elle appartient au surréalisme, proche de ce que peignait Miro, le grand ami de Calder, et abstraite. Mais je voudrais dire qu'il faut vraiment se méfier tout au long de l'exposition des titres de Calder, qui sont parfois donnés très longtemps après la création de l'œuvre. Enfin, 1933, c'est... Nous arrivons à la fin des années parisiennes de Calder, qui était arrivé à Paris en 1926. C'est la Fondation Louis Vuitton célèbre le centenaire de l'arrivée de Calder à Paris. Donc les années de la jeunesse de toute son œuvre à venir. Les Calder retournent aux États-Unis, achètent une ferme à Roxbury dans le Connecticut, et Calder va créer des œuvres beaucoup plus grandes à l'air libre, et cela va se ressentir dans son travail. Charles Ives avait reçu de son père, je vous en ai parlé, une première éducation musicale hors norme, documentée par de nombreuses anecdotes. Je vous rappelle qu'à l'occasion d'une fête, George Ives, qui était musicien de l'armée pendant la guerre civile, avait divisé son groupe de musiciens en 3 fanfares. Et il les fit déboucher sur la place centrale de la petite ville par 3 rues différentes, jouant des marches de tonalités différentes et à différentes vitesses. Et Charles Ives en garda un goût irrépressible pour la recherche, pour les expérimentations, pour la superposition évidemment des strates sonores et la citation de sources différentes à l'intérieur d'une même pièce. Alors, sa carrière fut relativement courte pour des raisons de santé et pour des raisons professionnelles. Je vous rappelle qu'il était assureur de profession. Il composa essentiellement entre 1908 et 1918. Il aura abordé quasiment tous les genres, sauf l'opéra. Donc après une première chanson de cow-boy, je vous propose d'écouter une mélodie, une autre mélodie pour voix et orchestre. Et c'est un chant qui est particulièrement en résonance avec les chorales américains et les hymnes religieux, une pièce emblématique de son style qui marquera profondément John Adams. Et en voici les paroles qu'il mit en musique. Serenity, O Sabbath, rest of Galilee. Sérénité, au sabbat, repos de Galilée, au calme des collines, où le Christ à genoux t'offrit en partage le silence de l'éternité, magnifié par l'amour. Sème tes perles de quiétude pour que cessent nos épreuves. Retire de nos âmes fatigues et tourments et permet à nos vies apaisées de chanter la gloire de ta paix. Take from our souls the strain and stress, and let our ordered lives confess the beauty of thy peace. Donc une mélodie toute simple comme une berceuse. Ives compose une pièce un peu hypnotique, certes, mais cette prière est chantée par-dessus une figure d'accompagnement répétitive. Vous allez l'entendre. Deux accords chromatiques à la sonorité plus inquiétante.
Of Galilee, O come.
Un étonnant mélange, n'est-ce pas, de sublime, sublime, et de sentimental dont parlait si bien John Adams, un des héritiers de Ives. Un sentiment élégiaque traverse cette pièce, une atmosphère au caractère flottant, une élégie flottante, mélancolique, un mouvement lent et mystérieux. Thomas Hampson était de nouveau le soliste de Serenity, accompagné par Michael Dilson Thomas à la direction du San Francisco Symphony Orchestra. Gardez ce chant dans l'oreille, je vous réserve une surprise pour la fin de l'émission.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Dans les années 1930, Calder développe toute une série de panneaux à mi-chemin entre peinture et sculpture. Et plusieurs œuvres de la série Panel sont réunies à la Fondation. Alors, panneau bleu, Blue Panel, que vous avez sur l'écran de rc.fr, c'est un assemblage bizarre où les formes suspendues évoluent devant un fond monochrome. On est donc face à une œuvre hybride, c'est-à-dire que l'on est à la frontière, comme souvent chez Calder, entre différents médiums. Il y a le panneau de contreplaqué à l'arrière-plan, donc une surface plane, bidimensionnelle, c'est de la peinture et c'est un monochrome. Et devant cet arrière-plan fixé au mur, je trouve un mobile. Et cette partie mobile est constituée d'éléments suspendus sculptés, deux feuilles de métal découpées, deux formes biomorphes colorées, l'une transperçant l'autre, qui danse un peu dans l'espace, puisque les éléments suspendus sont mis en mouvement par les courants d'air. Donc je retrouve la notion de mouvement, l'utilisation du fil de fer, de la ficelle, des formes fluides. Les deux éléments suspendus sont peints double face, jaune et rouge par exemple, et bleu et blanc. Si bien que personne ne voit la même chose selon l'endroit où ils se trouvent. Et le travail sur les ombres demeure très important. Alors, cela fait penser un peu à Matisse, au dernier Matisse qui aura utilisé systématiquement et uniquement la technique de la gouache découpée à vif dans la couleur. Et ça fait penser beaucoup à Miro en raison des formes biomorphes. Miro qui fait partie des amis les plus proches de Calder. Et plusieurs toiles de Miro sont présentes à proximité des panneaux de Calder. Toutefois, ces panneaux demeurent des œuvres hybrides. C'est, me semble-t-il, un détournement, une remise en question, en tout cas une interrogation de la forme tableau. Alors suivez-moi bien. Quand vous maintenez l'idée d'un plan, d'une surface bidimensionnelle, comme espace de la composition, mais que vous y ajoutez un premier plan mobile, quand vous associez à un plan fixe, fixé au mur, une suspension qui permet le mouvement dans l'espace, c'est bâtard. C'est comme de la radio filmée. C'est absolument une forme bâtarde. Mais c'est rudement intéressant. Je veux dire que c'est une œuvre de chercheur, un chercheur qui questionne ici la valeur du plan. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Est-ce qu'un plan, c'est toujours plat, bidimensionnel ? Est-ce qu'un plan dans l'espace, un plan dans l'espace, ça peut exister, tenir debout ? Et en filigrane, cette série des panneaux sont des œuvres qui annoncent les célèbres stabiles de Calder. Alors, il y en a deux à grande échelle sur la pelouse de la fondation, un rouge et un noir. Les stabiles, ce sont des sculptures fixes, des plans en tôle peinte qui fendent l'air. Et on les appelle stabiles parce que ce sont des sculptures fixes ancrées au sol. Et les stabiles vont démontrer combien le plan, et ici Calder s'interroge sur ce qu'est un plan, le remet en question, les stabiles vont démontrer combien le plan n'est pas forcément une surface uniformément plate, mais au contraire un espace qui peut être plié, découpé, traversé et tenir debout. Mais dans les années 30, on est encore au stade de la réflexion d'un sculpteur sur le plan. Alors, nous sommes maintenant en 1937. Une des premières commandes publiques de Calder qui est de retour à Paris, c'est la fontaine de Mercure, Mercury Fountain. La France accueille l'exposition universelle et Calder est invité par l'architecte catalan Josep Luis Serre à participer au pavillon de la République espagnole. Serre a prévu d'y placer une fontaine de mercure pour mettre à l'honneur Almaden. La mine d'Almaden, c'était un haut lieu de résistance. Et Calder expose aux côtés de Picasso et de Miro. À la fondation, une photo montre sa fontaine de mercure devant Guernica de Picasso. Guernica, qui, vous le savez, dénonçait le bombardement de la ville basque de Guernica par les aviations allemandes et italiennes. Alors Calder n'est pas espagnol, mais en raison de ses capacités d'ingénieur, il était le seul à pouvoir faire une fontaine de mercure. La fontaine d'origine se trouve aujourd'hui à Barcelone, à la fondation Miro, sous du verre, puisque le mercure est un produit hautement toxique. Il y avait réellement du mercure liquide dans la fontaine. Je vous montre mettre également sur l'écran de rc.fr une maquette à l'échelle 1 sur 3 qui est présente à l'exposition. À l'origine, le mercure, donc du métal liquide, s'y déversait et lui apportait du mouvement. Le mercure s'écoulait dans des vasques superposées, puis un bassin au sol. Et au-dessus du bassin, il y a un bras articulé surmonté d'un disque rouge et de l'inscription « Almaden » écrite en fil de laiton. Alors ce bras était mis en mouvement par l'écoulement du mercure et il y avait trois couleurs, le noir, l'argent et le rouge. Calder avait recouvert toute la sculpture de bitume parce que c'est un des rares matériaux à résister à la corrosion du mercure. Le mercure liquide est de couleur argentée à température ordinaire. Donc cela devait former avec le noir profond du bitume un contraste saisissant. Et puis il y avait le disque rouge. Vous comprenez que c'était une œuvre très politique et un symbole de la résistance espagnole. Dernier point, il y a d'autres œuvres en lien avec la résistance dans l'exposition, notamment la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Calder était un amoureux de la France. Il a vendu beaucoup d'œuvres pour collecter des fonds pour la résistance française et il a réalisé une croix de Lorraine pour l'épouse du général de Gaulle, une broche en forme de croix de Lorraine que vous pourrez voir dans la galerie des bijoux. En 1906, Charles Ives compose un diptyque, The Unanswered Question, la question laissée sans réponse, et puis Central Park in the Dark, Central Park la nuit que vous avez entendu il y a 15 jours. Si la seconde pièce est une évocation musicale de la réalité, les sons entendus, souvenez-vous, par une chaude nuit d'été dans Central Park à New York, l'intention de The Unanswered Question est clairement métaphysique. C'est la pièce la plus jouée de par le monde de Charles Ives. Trois différents groupes d'instruments sont en présence. La trompette, une trompette, un quatuor de flûte, et les cordes qui, idéalement, devraient être placées dans des espaces distincts. Charles Ives a donné un programme. Les cordes illustrent le silence éternel des druides. Alors écoutez, en France, on a à peu près l'équivalent, me semble-t-il, avec les mots du grand Blaise Pascal, que je cite « le silence éternel des espaces infinis ». Les cordes vont donc jouer pianissimo. Ne soyez pas surpris, pianissimo. Elles vont tisser un fond sonore continu tout au long de la partition. C'est un continuum sonore sur un tempo assez lent et c'est de la musique tonale. Les cordes représentent ainsi, je cite Ives, le silence des druides qui ne connaissent, ne voient et n'entendent rien. The silence of the druids who know, see and hear nothing. Tandis qu'une trompette solo pose jusqu'à 7 reprises. Vous pourrez les compter. Jusqu'à 7 reprises, la question du pourquoi de l'existence sous forme d'une phrase répétitive de 5 notes. Quant aux 4 flûtes, elles représentent, je cite de nouveau Ives, la recherche de l'invisible réponse devenant peu à peu plus présente, plus rapide et plus forte. Fin de citation. Les flûtes vont tenter de donner par 6 fois, mais en vain, une réponse. Elles tentent de formuler une réponse, mais elles vont se perdre dans la dissonance et elles finissent par abandonner. La 7e intervention de la trompette reste alors, vous l'aurez compris, sans réponse. Donc on a un essai de dialogue urgent, dramatique, entre la trompette solo et les flûtes, indépendamment des cordes, qui restent, elles, parfaitement indifférentes. Alors, Charles Ives souhaitait que les cordes qui jouent tout le temps, ce tapis de cordes qui se trouve dessous, qui incarne le silence, ne voient pas si possible les flûtes qui répondent à la trompette. Les cordes devraient donc être, dans une salle de concert, les cordes devraient donc être en coulisses, out of stage. On ne doit même pas les voir. Donc vous les entendrez au loin. Alors c'est extrêmement difficile à rendre à la radio, vous imaginez. Vous les entendrez au loin et c'est une recherche de spatialisation du son de Ives. Nous en avions parlé il y a 15 jours. Quant aux 4 flûtes, elles commencent par une réponse très diaphane, dans un tempo assez lent, mais au fur et à mesure des 6 réponses, ça va se densifier aussi bien au niveau du volume qu'au niveau du tempo. On passera de nuances très fluides à des nuances que vous trouverez extrêmement agressives. Et d'un tempo lent à un tempo extrêmement rapide, et malgré leur énervement ou à cause de leur énervement, les flûtes ne sont pas comprises, à moins que, elle n'ait pas la réponse. Je ne sais pas. Ives n'est pas très clair à ce sujet. Donc interprété, j'ai choisi pour vous l'orchestre de chambre Orpheus de New York. Orpheus Chamber Orchestra, sans chef, 1994, pour Deutsche Grammophon. donc interprété par l'Orpheus Chamber Orchestra, sans chef. Le sous-titre de cette pièce, Un paysage cosmique, entre en résonance, me semble-t-il, avec les mobiles classiques de Calder. La force de Calder, c'est vraiment de donner vie dans ces mobiles à des trajectoires invisibles dont on n'a pas la clé. Alors on peut y voir des références au cosmos, on n'est pas loin de voir des mouvements de planètes, même si pour lui, on est toujours dans une abstraction pure. Et en écho à cette pièce, The Unanswered Question, je vous montre, daté de 1940, un mobile, un grand mobile classique de Calder, avec pour titre Calyptus sur l'écran de rc.fr. Alors il y a eu toute une évolution des mobiles depuis les premières expérimentations des années 30. Les œuvres ont grandi, certains mobiles sont suspendus comme Eucalyptus, d'autres se tiennent sur leurs petites pattes, on les appelle des mobiles sur pied, et la base du mobile fait partie de sa propre structure. J'observe que les formes sont de plus en plus biomorphiques, elles sont inspirées directement de l'environnement de Calder, c'est-à-dire la nature, puisqu'il est dans sa ferme de Roxbury, en contact permanent avec la nature et qu'il s'en inspire. On peut penser effectivement à des sortes d'arbres, de buissons, de fleurs. Mais toujours se méfier, il faut toujours se méfier, je vous l'ai dit, de ces titres de Calder. Eucalyptus est un mobile emblématique, une forme suspendue abstraite, exclusivement noire, qui flotte gracieusement à quelques centimètres du sol, extrêmement légère, en équilibre. Elle se balance avec beaucoup de grâce au gré des courants d'air ou du déplacement des visiteurs. Écoutons Calder parler de ses formes, de ses feuilles de métal découpées. Je le cite, j'en garde certaines car elles sont plaisantes ou dynamiques. D'autres sont des morceaux que je trouve par hasard. Ensuite, je les arrange comme des papiers collés. Cela fait penser à Matisse, évidemment. Comme des papiers collés sur une table et je les peins, c'est-à-dire que je les arrange. Je place du fil entre les pièces, si c'est pour faire un mobile, pour le motif global. Enfin, j'en coupe d'autres avec mes ciseaux, en calculant l'équilibre cette fois. Je vous montre également, c'est une exception qui confirme la règle, car le titre a été donné en toute connaissance de cause, Peacock, le paon. Daté de 1941, c'est un mobile coloré suspendu et quand on l'observe attentivement, on arrive à voir une sorte de minuscule tête blanche avec des sortes de plumes qui sortiraient de la tête et puis le corps du paon. C'est un mobile qui fut offert à Jean-Paul Sartre. Calder était très généreux avec ses amis, il était l'ami de tout le monde. Et la texture de Peacock est un peu particulière, car Calder crée ce mobile à partir de plaques d'immatriculation du Connecticut. Il y a des petits trous dans les plumes, entre guillemets, du paon. Et tout ça parce que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une pénurie de métal et d'aluminium qui devait retourner à l'industrie de l'armement. Mais Calder trouve toujours des solutions pour utiliser des matériaux de récupération qui soient accessibles. Et dans le catalogue de l'exposition de ce mobile à la Galerie Carré à Paris, en 1946, Sartre écrira « Quelquefois, Calder se divertit à imiter, je vous ai dit c'est une exception, à imiter une forme naturelle, il m'a fait don d'un oiseau de paradis aux ailes de fer. Il suffit d'un peu d'air chaud qui le frôle en s'échappant par la fenêtre. L'oiseau se défripe en cliquetant, Il se dresse, il fait la roue, il balance sa tête huppée, il roule et tangue, et puis tout à coup, comme s'il obéissait à un signe invisible, il vire lentement sur lui-même, tout éployé. Mais la plupart du temps, Calder n'imite rien, et je ne connais pas d'art moins menteur que le sien. Enfin, je vous montre le premier stabile, le stabile historique de 1937. Souvenez-vous, c'est Marcel Duchamp qui avait introduit l'appellation de mobile. Et Jean Harpe, le sculpteur Jean Harpe, introduit celle des stabiles d'une manière assez ironique d'ailleurs. Il avait demandé à Calder, et ça, c'est censé être quoi ? Instabile, parce que ça ne bouge pas. Et Calder dira, eh bien c'est parfait, on va appeler ça stabile. Alors ça, c'est une sculpture toute noire, hein, aux formes biomorphes, intitulée Devil Fish, poisson diable. Ça ne ressemble pas du tout à un poisson. Surtout, ça ne bouge pas, c'est statique. On a des points d'ancrage au sol qui sont stables. Donc au départ, les stabiles sont petits. À ce stade, il n'y a pas de soudure, tout est assemblé avec des boulons. Ce stabile remplit l'espace, mais sans véritablement l'occuper complètement. Alors pour clore cette émission avec de la musique, vous vous souvenez du chant Serenity de Charles Ives. La mélodie, ce chant religieux, fut reprise par un groupe de pop psychédélique, les Américains de Deer Hunter, en 2018, qui se pose ici en héritier de Ives. Je vous rappelle, ne soyez pas choqués, je vous rappelle ce que dit le compositeur John Adams de Charles Ives. Ives a toujours mêlé le sublime avec le vulgaire et le sentimental, et il l'a fait avec une insouciance qui ne pouvait être que celle d'un Américain. Donc, j'ai un rapprochement de catégories esthétiques, le sublime d'un côté, le beau, le romantique, etc., et le commun, le populaire de l'autre. Et ce sont des catégories esthétiques que l'on pourrait rapporter à la vieille Europe et d'autres dont un Américain nous dit qu'elles sont proprement américaines, le familier, le commun, ce qui est low, L-O-W. Au bout du compte, il s'agit de les synthétiser, c'est-à-dire de rechercher le sublime dans le commun. Au revoir.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier, émission préenregistrée le 4 juillet 2026 et diffusée pour la première fois le jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisée par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.